Cet après-midi, la Vierge Marie, on va chanter ensemble le Réjouis-toi. Ses disciples et donc aussi comme voilà une maman qui éduque et fait grandir ses enfants. Nous nous remettons dans tes bras, dans tes mains, Vierge Marie, pour que toujours par ton intercession nous puissions grandir sur les chemins de la vie, les chemins de la paix et de réconciliation et de fraternité auxquels Jésus, ton Fils, ne cesse de nous appeler, nous ayant lui-même montré le chemin qui fait tomber tant de barrières qu'il nous arrive de mettre entre nous, êtres humains. Amen. Nous poursuivons notre parcours dans ce chapitre 7 de l'encyclique et nous en étions ce matin, voilà, restés au fait qu'il y a à la fois l'architectural qui est nécessaire par des institutions au cœur de la société qui sont appelées aussi à promouvoir ce mouvement qui peut être voilà, un mouvement qui peut permettre aux hommes de se retrouver, mais aussi, disait le pape François, c'est pas suffisant, il faut aussi qu'il y ait l'artisanal, l'architectural, les structures, mais l'artisanal, et l'artisanal, ça, c'est chacun de nous qui en sommes quelque part les artistes. Il le disait autrement, il disait là, voilà. Il y a un artisanat de la paix qui nous concerne tous. Voilà. Alors, cette paix, ce processus, de ces parcours de paix qui conduisent à la cicatrisation des blessures sont nécessaires, voilà, et qui permettent à se retrouver, comme nous l'avons lu au numéro 225, au tout début. Eh bien, au numéro 232, voilà, le pape François nous invite à vraiment accueillir que ce sera toujours un chantier. Voilà. Ces parcours de paix sont toujours un chantier. Il n'y a pas de point final à la construction de la paix sociale d'un pays, nous dit-il. Voilà. Il n'y a pas de point final. Celle-ci, construction de la paix, est plutôt une tâche sans répit qui exige l'engagement de tous. En d'autres termes, cette paix ne tombera pas du ciel. Elle ne sera pas acquise une fois pour toutes. Elle est une tâche, voilà. Elle est censée se remettre sur le métier. Et ça exige un engagement. Ça veut dire quelque part un choix en vue de. Voilà. Un choix en vue de. Il va développer cela. Et voilà, il le développe juste un peu plus loin. Donc cela exige l'engagement de tous, et quelques lignes plus bas, pour persévérer dans la lutte afin de favoriser la culture de la rencontre. Voilà. Un thème qui a déjà traversé cette encyclique. Un engagement de tous afin de persévérer dans la lutte, parce que oui, c'est une lutte, ça peut être un certain combat, de vouloir favoriser toujours la culture de la rencontre qui exige, dit-il, de mettre au centre de toute action. Et c'est là que, voilà, cette culture de la rencontre, si je la remets sur le métier tous les jours, eh bien, ça va travailler mes actions banales du quotidien, si vous le voulez, hein. Cette culture de la rencontre qui exige de mettre au centre de toute action sociale et économique, on pourrait dire toutes nos actions humaines, la personne humaine. Voilà ce qui est à mettre au centre. La personne humaine. Sa très haute dignité, nous dit-il, et le respect du bien commun. Trois choses à mettre au centre pour cultiver la culture de la rencontre qui est indispensable à des processus de paix. C'est de mettre au centre de toute action la personne humaine, sa très haute dignité et le respect du bien commun. Or, ça n'est pas rien. Ça pourrait être les lunettes à travers lesquelles nous pouvons discerner aussi nos actions, nos manières d'être avec les autres, nos manières de travailler. Je veux dire, ça peut toucher aussi dans une entreprise, ça peut toucher aussi dans une équipe de travail. Nous sommes sensibles à mettre au centre de toute action la personne humaine. Vous voyez ? Sa très haute dignité, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa couleur, sa hauteur, son état de santé, l'épaisseur de son portefeuille, sa très haute dignité. Et en même temps, le bien commun. Voilà. Et au fond, ces trois éléments peuvent nous aider à ajuster aussi. Voilà. Si je suis un chef d'entreprise et que je dois licencier, c'est peut-être une réalité. Quelle est la manière dont je vais le faire? Quelle est la manière dont dans cette situation douloureuse qui va atteindre une famille, je vais mettre la personne au centre, sa haute dignité et le bien commun. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas licencier, par exemple, hein? Mais la façon, comment je vais le vivre? Voilà, ça, la culture de la rencontre. Voilà. Je suis médecin. Comment je vais annoncer à mon patient le diagnostic, par exemple, de sa maladie? Est-ce qu'au centre sera la personne humaine? Et je ne vais pas lui dire qu'il n'est pas malade, s'il est malade, c'est évident. Comment Et je me dis, mais pour tout, pour tout. Comment je vais prendre mon mal en patience dans la file au carrefour, au Colreuil, tout n'importe où. C'est tout le quotidien. Voilà. Cette culture de la rencontre qui exige de mettre au centre de toute action, sociale et économique, la personne humaine, la très haute dignité de chaque personne et le respect du bien commun. Que cet effort... Décidément, il appuie dans ce chapitre 7 sur un mal dont il veut écraser la racine. Parce qu'il nous dit encore juste après que cet effort nous fasse fuir toute tentation de vengeance. Pas la première fois qu'il vient avec ce mot-là. Donc si là, il y a vraiment quelque chose à écraser à la tête, quoi, hein, un effort de mettre au cœur la culture de la rencontre. C'était au numéro 232. Et puis, il souligne aussi l'attention à mettre au cœur, dans cette culture de la rencontre, le lien au plus pauvre. Le lien au plus pauvre, voilà, au numéro 234. C'est important. Je vous lis là. Souvent, les derniers de la société ont été offensés par des généralisations injustes. Vous savez, les généralisations injustes, ça blesse tout le monde. Souvent, les derniers de la société ont été offensés par des généralisations injustes. Si parfois, nous dit-il, les plus pauvres et les exclus réagissent par des actes qui paraissent antisociaux, il est important de comprendre que ces réactions sont très souvent liées à une histoire de mépris et de manque d'inclusion sociale. Vous voyez, le manque d'inclusion sociale. C'est un autre thème qu'il a parcouru déjà précédemment dans les autres chapitres. L'inclusion sociale de tous. Et donc ici aussi, dans ces chemins de paix à promouvoir et à construire, il attire l'attention, oui, voilà. Alors il va loin, il continue. L'option pour les pauvres, c'est toujours dans le même numéro 234, l'option pour les pauvres doit nous conduire à l'amitié avec les pauvres. Pas seulement se donner bonne conscience. L'option pour les pauvres, et c'est déjà génial. Rappelons-nous que c'est la politique des petits pas. Mais, eh bien, dans ce chemin, c'est que cette option pour les pauvres nous conduise à l'amitié pour les pauvres. Et en laissant résonner cette parole-là, en lisant cet encyclique, je me suis dit, mais l'amitié, c'est aussi une présence. C'est aussi une présence. Nous ne le voyons que trop bien. Quand nous cultivons des amitiés, l'amitié, elle se cultive aussi par une certaine présence, d'une manière ou d'une autre. Et voilà, qui dit à l'autre son importance. Après, la présence peut être de mode différent pour les uns pour les autres. Mais voilà. Donc il y a... Voilà. Une forme de présence pour les pauvres. On pourrait même dire une forme de miséricorde, comme je le disais tout à l'heure, au sens étymologique. Une des significations du mot miséricorde, c'est aussi de laisser la place à l'autre pour qu'il existe. Vous voyez ? Non pas seulement en marge, parce que là je ne lui fais pas de place. Là je lui dis, dans le corps social, tu n'as pas ta place. Non, non. L'inclusion, voilà. Et puis au 235, toujours un peu en lien avec cela, l'iniquité, c'est-à-dire les injustices graves, et le manque de développement humain intégral qui prend en compte l'ensemble de l'humain, ne permettent pas de promouvoir la paix. Voilà, c'est très clair. L'iniquité et le manque de développement humain intégral ne permet pas de promouvoir la paix. Quand la société abandonne dans la périphérie une partie d'elle-même, voyez, il n'y a ni programme politique, ni force de l'ordre ou d'intelligence qui puisse assurer sans fin la tranquillité. Parce que c'est mettre une part d'elle-même en dehors d'elle-même. Et ça, à un moment donné, ça n'assure plus une tranquillité. Voilà. Quand la société abandonne dans la périphérie, hein, et puis nous savons que ce terme périphérie est un mot cher, hein, au pape François, qui invite justement l'Église à aller aux périphéries. Laisser tout ça résonner. Ce n'est pas pour qu'on soit culpabilisé, hein, en ressortant de cette journée, pour Dieu sûrement pas, mais pour qu'on soit boosté, boosté pour, voilà, pour aller de l'avant avec discernement à la rencontre de l'autre. Non pas pour qu'il devienne comme moi ou que je devienne comme lui, mais pour qu'ensemble, par ce processus de rencontre, nous puissions construire cette unité multiforme qui est plus haute. Et c'est alors que le pape François va parler alors dans ce chapitre de toute une dimension essentielle dont je vous ai un peu parlé déjà ce matin, mais je vais apporter l'un ou l'autre élément qu'il y apporte aussi, le pardon, voilà, la dimension du pardon, la valeur et le sens du pardon, comme il l'écrit, enfin c'est un titre qui est mis au-dessus du numéro 236. Et d'abord, il commence par dire que le pardon peut être mal compris, mal interprété. Hein, je vous lis au numéro 236. Certains préfèrent ne pas parler de réconciliation parce qu'ils pensent que le conflit, la violence et les ruptures font partie du fonctionnement normal d'une société. Certains vont dire que ça fait partie du fonctionnement normal d'une société, qu'il y ait des violences, des ruptures, des conflits, donc nous n'allons pas commencer à parler de réconciliation. Certains pensent ça, nous dit le pape. D'autres, nous dit-il, soutiennent que accorder de la place au pardon, c'est renoncer à sa propre place pour laisser d'autres dominer la situation. Voilà. Alors finalement, si je pardonne, finalement, c'est que je renonce à ma propre place et je vais laisser l'autre dominer une situation. Il nous dit, voilà, encore ce que certains pensent. D'autres encore croient que la réconciliation est l'affaire des faibles. Et l'affaire des faibles qui ne sont pas capables d'un dialogue de fond et qui choisissent donc de fuir les difficultés en dissimulant les injustices. Voilà. Et donc vous voyez, par rapport à ce point-là, tout ce que nous voyions ce matin sur la nécessaire prise en compte ensemble et de la réconciliation, du pardon et de la justice, justement. Hein? Voilà. Alors au 237, il dira, Combien le pardon et la réconciliation, quoi qu'en pensent certains qui vont dire c'est normal qu'il y ait des problèmes dans une société, donc on n'a pas besoin de réconciliation ni de pardon, ou qui vont dire c'est une histoire de faible, quoi. Au 237, il dira le pardon et la réconciliation sont des thèmes fortement mis en exergue dans le christianisme. Nous sommes là avec des thèmes finalement majeurs, centraux dans le christianisme. Le risque, dit-il, qu'il va désamorcer finalement dans les numéros qui suivront, hein, le risque, c'est de ne pas comprendre convenablement les convictions des croyants en matière de pardon et de réconciliation et de les présenter de telle sorte qu'elles finissent par alimenter le fatalisme, l'inertie ou l'injustice, ou alors l'intolérance et la violence. Voilà. Pardon et réconciliation, c'est central. C'est fortement mis en exergue dans le christianisme. Le risque est de ne pas comprendre convenablement ce que cela signifie. Et puis le pape François appuiera avec l'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 22. L'évangile demande de pardonner 70 fois 7 fois. Ça veut dire sans compter. Non seulement l'évangile demande de pardonner, mais souligne encore François, il donne cet évangile comme exemple. Le serviteur impitoyable, ou plutôt comme contre-exemple, que le serviteur impitoyable qui, après avoir lui été pardonné, n'a pas été capable à son tour de pardonner aux autres. Vous vous rappelez, je t'avais remis cette dette, pourquoi n'as-tu pas toi fait de même, quelque part, hein? Donc là, il apporte quelque chose aussi d'important, c'est qu'il y a peut-être, dans nos chemins de vie respectifs, à pouvoir goûter pour nous-mêmes la miséricorde, le pardon. Nous sommes tous des hommes, des femmes pécheurs. Alors Seigneur, si tu m'accordes ta miséricorde, ton pardon, comment ne pas me mettre en chemin pour que peu à peu, dans ma vie, je puisse aussi faire rebondir ce mouvement de vie que tu m'as accordé, parce qu'accueillir la miséricorde, c'est un mouvement, ça remet debout, si vous le voulez. On en fait l'expérience dans ce sacrement de la miséricorde. Eh bien, comment alors ne pas me mettre en chemin pour que je puisse aussi faire rebondir quelque part cette miséricorde, peu à peu, hein, et peut-être en commençant par la prière de Jésus sur la croix. Jésus n'a pas dit à ses bourreaux, je vous pardonne. On lui demandera pourquoi. Moi, j'ai ma petite idée là-dessus, hein, mais je suis peut-être à côté de la plaque, mais ce n'est pas grave, parce que ça me fait vivre, cette petite idée. C'est que dans son humanité, ce qu'il est en train de vivre là, parce que Jésus est vrai homme et vrai Dieu quand même, ce qu'il est en train de vivre là est une blessure telle qu'on est en train de le mettre à mort quand même, ce n'est pas rien. Je vais dire d'une injustice extrême, de surcroît, mais en plus on est en train de le clouer sur la croix. Peut-être que dans son humanité, il est tellement atteint, blessé, qu'il ne sait pas dire « je vous pardonne ». pardonne. Mais il nous ouvre un chemin, je trouve, par cette prière qu'il adresse à son Père. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur. Voilà. Je trouve qu'on peut beaucoup aussi méditer, après tous les grands théologiens auront sûrement d'autres explications à vous donner, mais on voit transparaître en tout cas le souci de Jésus que ces bourreaux ne soient pas prisonniers du mal qu'ils lui font, quand bien même on voit que pour cela, Jésus passe par la prière adressée à son Père. Et à ce moment-là, voilà. Père, pardonne-leur. Voilà. Mais bon, donc, l'Évangile invite à pardonner 70 fois 7 fois. Je ne reviens plus sur tout l'enjeu pardon-justice, j'ai développé ça ce matin. Et en même temps, il nous dit, il nous invite peut-être aussi à goûter cette miséricorde, en tout cas de Dieu à notre égard. Peut-être d'autres humains à notre égard. Il y a peut-être dans notre vie une personne qui nous a un jour dit je te pardonne, je n'en sais rien, ceci, cela. C'est bien sûr reconnaître la vérité de la blessure, hein, bien sûr, et ouvrir un chemin de pardon. Voilà. Et en même temps, hein, comme disait le pape François, certains pensent que ceci, pensent que cela, et donc ne comprennent peut-être pas nécessairement. Et c'est vrai, il reprend cette incompréhension du message du Christ, hein, pour un certain, voilà, pour un certain nombre, et ça va générer de la souffrance aussi, parfois de la division. Numéro 240. Quand nous réfléchissons sur le pardon, la paix et la concorde sociale, nous nous trouvons face à une affirmation de Jésus-Christ qui nous surprend, dit-il. Voilà. Et cette affirmation, elle est la suivante, dans Saint Matthieu, chapitre 10, versets 34 à 36. N'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Car je suis venu opposer l'homme à son père, la fille à sa mère, voilà, etc., à la belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa famille. Non pas que Jésus dresse les uns contre les autres, voyez, mais que l'option qu'il nous montre, l'option qu'il nous révèle au nom de l'amour de son Père pour tout homme, l'option, si je traduis plus loin, de cette inclusion sociale de tous au nom de la très haute dignité de chaque personne, au cœur de la société, cette option-là, ce choix-là, va amener de la division parce que tous ne sont pas prêts à l'accueillir. Voyez, saisissez, quand Jésus dit « Je suis venu apporter le glaive », et pas la paix. Non pas que Jésus vienne mettre la zizanie, non, mais que sa présence, son être au monde, sa manière de nous montrer un chemin de vie, eh bien, je vais dire, si j'emboîte le pas, non seulement il y en a qui ne comprendront pas, ça c'est pas encore le glaive, mais il y en a qui ne le supporteront pas. Voilà. Voilà. Et donc, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit dans la suite. Je lis vite puisque je voulais expliquer. Quand il dit cette phrase, je suis venu apporter le glaive, etc. Il est important de situer cette affirmation de Jésus dans le contexte du chapitre où elle se trouve dans l'évangile de Matthieu. De toute évidence, le thème de ce chapitre, le thème qui est abordé est celui de la fidélité à un choix. Vous voyez, vous allez vivre votre vie dans la fidélité à un choix de l'option préférentielle, j'invente, hein, pour les pauvres, qui est en lien avec l'évangile, par exemple. Ça va vous faire accueillir certaines manières de vivre. Et voilà. Ça va en déranger certains, y compris au sein de votre famille. Bon, après, il faut discerner, évidemment, il faut que tout ça reste équilibré. De toute évidence, le thème qui est abordé dans ce chapitre est celui de la fidélité à un choix sans honte, même si cela comporte des contrariétés et même si des proches s'opposent au choix en question. Par conséquent, cette affirmation, je ne suis pas venu apporter la paix mais le glaive, n'invite pas à rechercher les conflits, soyons clairs. Il s'agit d'être dans un chapitre ici où le pape nous dit des chemins pour se retrouver. Donc forcément, cette parole du Christ n'invite pas à chercher les conflits, mais simplement à supporter le conflit inéluctable quand il est là. Voilà. Bon, donc ce chemin du pardon, j'avance parce que l'heure tourne. Génère de la non-compréhension et donc aussi de la division. Parce que, voilà, c'est faire le choix quelque part. Comme baptisé, peu à peu dans mon chemin de vie, je vais faire le choix d'essayer de mettre mes pas dans ceux du Christ. Et forcément, je ne vais pas à la fois les mettre dans le sens contraire. Vous voyez ? Non. Ça m'engage. Alors, ça j'ai souligné tantôt, ça aussi, voilà. Au numéro 251, le pape nous dit quelque chose de très important et qui souvent est une question que j'entends qui revient. Mais j'ai pas pardonné puisque j'ai pas oublié. Ah, ben, il en parle, le pape François. Est-ce que pardonner veut dire oublier ? Mais non ! Voilà. Au numéro 250. Mais c'est très important, hein ? C'est très important parce que c'est quelque chose que j'entends régulièrement. Est-ce que j'ai vraiment pardonné ? parce qu'en fait, je n'ai pas oublié. Vous voyez ? Donc je lis avec vous numéro 250. Le pardon n'implique pas l'oubli. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne doit jamais être toléré, justifié ou excusé, voilà, c'est injustifiable ce que j'ai vécu, c'est inexcusable, etc. Il est cependant possible de pardonner. Quand il y a quelque chose que pour aucune raison nous ne pouvons nous permettre d'oublier, et il parlera, nous ne pouvons pas oublier la Shoah, nous ne pouvons pas oublier voilà, des accidents nucléaires, etc. Il en parle après. On ne peut pas. Donc il dit, quand il y a quelque chose que pour aucune raison nous ne pouvons nous permettre d'oublier, nous pouvons cependant pardonner. Le pardon libre et sincère est une grandeur qui reflète l'immensité du pardon divin et qui est tout un chemin, hein. Je ne reviens pas, on l'a dit assez. Si le pardon, et puis voyez, donc la question de l'oubli, j'y reviens encore un peu après, mais il aborde une autre question. Est-ce que pour que je pardonne à l'autre, est-ce qu'il faut qu'il me demande pardon et qu'il se repente? C'est aussi des questions que parfois j'entends. Il a une petite phrase toute simple, à la fin du 250. Si le pardon est gratuit, et le pardon est gratuit, alors on peut pardonner même à quelqu'un qui résiste au repentir et qui est incapable de demander pardon. Parce que le pardon, le chemin de pardon envers quelqu'un qui m'a blessé à un moment donné, c'est moi qui ai un cadeau à lui offrir. C'est moi qui ai un cadeau à lui offrir. Et ce cadeau, je peux le lui offrir. Peut-être après des années, peut-être après des décennies. C'est toujours une grâce, parce que c'est gratuit. C'est toujours, et que ça vient en écho de la miséricorde de Dieu. Donc ce sera toujours aussi une œuvre par laquelle ce qui dépasse l'homme permet à un moment donné de donner un pardon à ce qui, pour aucune raison, ne peut être oublié. Voilà, tant peut-être ce fut grave, hein, dans le sens majeur. Important comme blessure. Et ben voilà, oui, si le pardon est gratuit, ben voilà, alors on peut pardonner même à quelqu'un qui résiste au repentir et qui est incapable de demander pardon. Voilà. Vous allez offrir un cadeau de Noël à quelqu'un, vous faites ce cadeau. Vous n'êtes pas encore certain que l'autre va tendre les mains pour l'accueillir, hein, mais le cadeau, il est fait. Ou bien l'autre tend les mains pour l'accueillir, lui offrir une machine à café. L'autre tend les mains pour l'accueillir, et puis il dit, moi j'en ai déjà assez de machines à café. Il va le mettre au placard à côté, ou il va le mettre sur eBay, ou je ne sais pas quoi, hein, pour le revendre un peu plus loin, pour encore faire des sous sur votre cadeau. Hein, voilà. Hein, et puis, vous, le cadeau, il vient du fond, il est donné. La réception du cadeau, c'est encore différent. Oui, je peux donner un authentique pardon à quelqu'un qui n'est pas prêt à demander pardon. Voilà. Sur l'oubli, à nouveau, au 251, vous voyez. Ceux qui pardonnent en vérité n'oublient pas. Mais, il y a un mais. mais ils renoncent. Vous voyez, ceux qui pardonnent en vérité n'oublient pas, mais ils renoncent à être possédés par cette même force destructrice dont ils ont été victimes. Vous voyez, je n'oublie pas, mais je renonce à être possédé par cette même force destructrice qui m'a abîmé, dont j'ai été victime. Ainsi, il brise ces personnes qui font ce pardon sans oublier, mais qui renoncent. Il y a un renoncement donc, hein, qui renonce, vous voyez, à être possédé par cette même force destructrice dont ils ont été victimes. Ces personnes brisent le cercle vicieux qui ralentit les progrès. Ils brisent les cercles vicieux, ils ralentissent les progrès des forces de destruction. Voilà, par ce choix, c'est un renoncement. Il y a donc une dimension de choix. Mais rappelons-nous qu'être baptisé, alors le pape s'adresse à tout homme, pas seulement aux chrétiens, mais nous comme baptisés, la profession de foi baptismale, elle est aussi sous forme de renoncement et tout ça, hein, d'un choix, quelque part. C'est, on en revient à ce qu'on disait ce matin. Quel légume est-ce que je vais essayer d'arroser dans le jardin potager de ma vie ? Et de temps en temps, il faut que je passe avec le sarcloir. Parce qu'il y a, entre les très bons légumes, il y a de la mauvaise herbe qui pousse, puis il ne faudrait pas que cette mauvaise herbe vienne étouffer des bons légumes. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est très important, ne pas oublier. Et le pape François va encore ajouter une nuance. Non seulement ne pas oublier l'horreur, hein, bah, ici il se situe dans la Shoah, dans les guerres, dans les guerres nucléaires, etc. Hein, donc ne pas oublier l'horreur des drames vécus, mais il dira aussi l'importance de ne pas oublier ce que, au cœur de ce qui est vécu, a pu se vivre de beau. Si je traduis pour nous aujourd'hui, ne mettons pas un paravent devant le drame des inondations qui se sont vécues. Voyons le drame que ça a et que c'est aujourd'hui pour tant de personnes, tant de familles, bien sûr, pour qu'on puisse, entre guillemets, tirer les leçons aussi des lieux où on implante des bâtiments, etc., où je ne sais pas tout quoi j'invente ici, mais quand même. Et en même temps, le pape nous dirait, n'oubliez pas non plus ce que vous avez perçu comme capacité de ce que l'homme peut avoir de plus grand en lui au cœur de cette épreuve, de ce drame meurtrier. C'est ce qu'il nous dit dans les lignes qui suivent. Au 249, je suis revenu un peu en arrière, mais c'est très bien. On ne progresse jamais sans mémoire. Vous voyez, d'où l'importance de ne pas oublier. On ne progresse jamais sans mémoire. Nous avons besoin de garder vivante la flamme de la conscience collective, témoignant aux générations successives l'horreur de ce qui est arrivé. La guerre, par exemple. témoignant aux générations successives l'horreur de ce qui est arrivé, qui réveille et conserve de cette façon la mémoire des victimes. Vous voyez, parce que c'est faire mémoire de ces horreurs pour réveiller et conserver la mémoire d'êtres humains là derrière. Hein? La mémoire des victimes. C'est là l'enjeu. Afin que la conscience humaine devienne toujours plus forte face à toute volonté de domination et de destruction. Parce que faire mémoire de ces drames, eh bien voilà, ce sera faire mémoire et conserver la mémoire des victimes. Et ça doit nous titiller. Parce que ces victimes pourraient être nous. Et pas seulement parce qu'elles pourraient être nous, parce que ces victimes sont du même tissu d'humanité. Elles sont quelque part « nous », entre guillemets. Voyez ? Nous sommes de la même pâte, pour le dire simplement. Donc faire mémoire, pour que de cette façon notre conscience humaine garde vivante la mémoire des victimes et que ainsi la conscience humaine devienne toujours plus forte face à toute volonté de domination et de destruction. Les victimes elles-mêmes, personnes, groupes ou nations, en ont besoin. Les victimes elles-mêmes en ont besoin. Pour ne pas céder à la logique qui porte à justifier les représailles. Vous voyez ? À partir du moment où la victime n'est plus reconnue comme victime, et dans le drame qu'elle a vécu, voilà. À ce moment-là, les représailles sont facilitées, favorisées. Donc les victimes elles-mêmes en ont besoin pour ne pas céder à la logique, parce qu'il y aurait quelque chose de logique, vous voyez, à la logique qui porte à justifier les représailles et quelques violences au nom de l'énorme préjudice subi. Voilà. C'est pourquoi, voilà, et c'est là maintenant, hein, mémoire des horreurs, mais aussi du beau. C'est pourquoi je ne me réfère pas uniquement à la mémoire des horreurs, mais aussi au souvenir de ceux qui, dans un contexte malsain et corrompu, ont été capables de retrouver la dignité. Et par de petits ou grands gestes, ont fait le choix de la solidarité, du pardon, de la fraternité. Au cœur d'un contexte malsain, horreur, drame, guerre, que sais-je, faire mémoire bien sûr de ces horreurs, mais aussi du souvenir de ceux qui dans ce contexte-là, malsain, corrompu, faire mémoire des personnes qui ont été capables de retrouver la dignité. Voyez, remettre au cœur de toute action sociale, économique, politique, tout ce qu'on a dit tantôt, hein, la personne humaine. Voilà. Même dans un contexte malsain et corrompu. Et de cela, il faut faire mémoire aussi de ces personnes qui ont déployé au cœur de tout cela solidarité, pardon, fraternité. Il est très sain de faire mémoire du bien, nous dit-il. Voilà. Voyez, il est très sain de faire mémoire du bien. Faut que j'atterrisse. Voilà. Donc nous voyons combien l'enjeu, hein, de ce chapitre. On arrive à la fin de cette encyclique, et encore le chapitre 8. Mais voilà. Peu à peu, on sent quelque part, le pape François nous invitait, êtres humains, membres d'une même famille humaine, indépendamment même de notre foi, eh bien, à mettre au cœur de notre moteur humain cette dignité haute, haute, élevée de tout homme, de toute femme, comme moteur de nos actions. Même si c'est au cœur d'un univers malsain et corrompu. Et je n'ai pas le temps de développer, mais il termine cette partie-là du chapitre 7 sur une prière que je trouve très belle au numéro 254. Je vous la lis. Je demande à Dieu, guillemets, de préparer nos cœurs à la rencontre avec nos frères au-delà des différences d'idées, de langue, de culture, de religion. Demandons-lui d'oindre tout notre être de l'huile de sa miséricorde, qui guérit les blessures des erreurs, des incompréhensions, des controverses. Demandons-lui la grâce de nous envoyer avec humilité et douceur sur les sentiers exigeants mais féconds de la recherche de paix. De nous envoyer avec humilité et douceur sur les sentiers exigeants mais féconds de la recherche de paix. On comprend aisément que dans les 10 dernières pages de ce chapitre 7, le pape va montrer que la guerre n'apportera jamais un plus de vie. Et la peine de mort non plus. Je n'ai pas le temps de développer avec vous. C'est ce qu'il continue à développer dans ce chapitre 7. Voilà. Et nous allons en rester sur cette belle prière. Voilà. Que nous pouvons aussi un peu, si nous le voulons, faire nôtre. Pour que le Seigneur, toujours au cœur de ce qui est, nous aide à nous façonner pour humblement, mais vraiment, emprunter le chemin de la paix. Amen. Voilà, il y a maintenant une demi-heure de silence. On va essayer de le garder pour respecter le chemin de chacun. Durant cette demi-heure, l'abbé Pierre sera, comme ce matin, au bureau d'accueil, s'il y en a qui souhaitent le rencontrer, au livre du sacrement de la réconciliation, le père Philippe au bureau du prédicateur, et moi-même à la mezzanine, au plus 2, directement à gauche. Voilà, et nous nous retrouvons à 3h à la chapelle pour voilà, clôturer ensemble cette partie commune de la journée pour Dieu de ce jour. Philippe, si tu veux venir couper ton jardin, merci.